voix lue. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Hélène Renard.
Madame, Monsieur, bonjour. Le mercredi 10 juin 2009, l'écrivain Milan Kundera a reçu, sous la coupole de l'Institut de France, le prix mondial Simone et Sino del Duca 2009, d'un montant de 300 000 euros, pour récompenser sa carrière et rendre hommage à l'ensemble de son œuvre. Milan Kundera s'était exceptionnellement déplacé pour recevoir ce prix des mains d'Hélène Carrère-Dancos, secrétaire perpétuelle de l'Académie française. Comme on le sait, Milan Kundera est un écrivain tchèque. Il est né en 1929, il fête donc cette année ses 80 ans. Il est arrivé en France, rejeté par son pays passé sous la botte soviétique en 1975 et il a obtenu la nationalité française en 1981. Milan Kundera a publié, en avril 2009, un livre intitulé « Une rencontre ». On s'étonne de ce singulier puisque ce livre salue plusieurs artistes, peintres, écrivains, romanciers, poètes, cinéastes que Kundera a aimés au cours de ses multiples rencontres de sa vie. Mais sans doute toutes ces rencontres n'en font-elles pour lui qu'une seule, ainsi que l'exergue du livre peut le laisser penser. Je le cite, « Rencontre de mes réflexions et de mes souvenirs, de mes vieux thèmes existentiels et esthétiques et de mes vieux amours, Rabelais, Janáček, Fellini, Malaparte. » Et parmi ces vieux amours, il en est deux tout particulièrement sur lesquels nous vous proposons de nous attarder un instant dans cette émission en vous faisant entendre maintenant quelques courts extraits. Des extraits qui concernent deux académiciens, Anatole France de l'Académie française et Yanis Xenakis de l'Académie des Beaux-Arts. Anatole France, Milan Kundera le souligne, est un écrivain mis sur les listes noires. Il était de mauvais ton d'y faire référence à cause des prises de position d'Anatole France dans les débats de son époque et comme le disait Cioran à Kundera, « Ne prononcez jamais ici son nom à haute voix, tout le monde se moquera de vous. » Qu'importe à Kundera qui défend un auteur qu'il aime, trop injustement oublié, dont le successeur à l'Académie fut Paul Valéry, lequel ne goûtait guère les romans et encore moins Anatole France. Écoutez ce que relate Kundera sur cet épisode.
Le cortège funèbre qui accompagnait Anatole France était long de quelques kilomètres. Puis tout a basculé. Excité par sa mort, quatre jeunes poètes surréalistes ont écrit contre lui un pamphlet. Son fauteuil à l'Académie française étant vide, un autre poète, Paul Valéry, a été élu pour s'y asseoir. Cérémonie oblige, il lui a fallu prononcer l'éloge du disparu. Pendant tout son panégyrique, devenu légendaire, il a réussi à parler de France sans prononcer son nom et à célébrer cet anonyme avec une ostensible réserve. En effet, dès que son cercueil a touché le fond du trou, la marche vers la liste noire a commencé pour lui. Comment ? Les propos de quelques poètes d'audience plutôt limitée avaient-ils la force d'influencer un public 100 fois plus nombreux ? Où a-t-elle disparu l'admiration de ces milliers de gens qui avaient marché derrière son cercueil? Les listes noires, d'où tirent-elles leur force? D'où viennent les commandements secrets auxquels elles obéissent? Des salons. Nulle part au monde, ils n'ont joué un rôle aussi grand qu'en France. Grâce à la tradition aristocratique qui dure depuis des siècles, puis grâce à Paris, où, sur un espace étroit, toute l'élite intellectuelle du pays s'entasse et fabrique les opinions. Elle ne les propage pas par des études critiques, des discussions savantes, mais par des formules épatantes, des jeux de mots, des vacheries brillantes. C'est ainsi. Les pays décentralisés diluent la méchanceté, les centralisés la condensent.
Milan Kundera poursuit sa défense d'Anatole France, lequel, rappelons-le, avait publié en 1911 « Les dieux ont soif ».
Jeune homme, j'ai essayé de m'orienter dans le monde en train de descendre vers l'abîme d'une dictature dont la réalité concrète n'était prévue, voulue, imaginée par personne, surtout pas par ceux qui avaient désiré et acclamé son arrivée. Le seul livre qui a été capable de me dire alors quelque chose de lucide sur ce monde inconnu a été « Les dieux ont soif ».
Et un peu plus loin, toujours dans ce chapitre consacré à Anatole France, dont l'un des autres romans les plus célèbres est « La rôtisserie de la reine Pédoc », Kundera revient sur l'un de ses thèmes favoris, le roman.
Le discours par lequel Paul Valéry a élégamment réprimandé Anatole France a fait date pour une autre raison encore. Ce fut la première oraison prononcée depuis la tribune de l'Académie française sur un romancier, je veux dire sur un écrivain, dont l'importance reposait presque entièrement sur ses romans. En effet, pendant tout le XIXe siècle, le plus grand siècle du roman français, les romanciers ont été plutôt négligés par l'Académie. N'est-ce pas absurde ? Pas tout à fait absurde. Car la personnalité de romancier ne correspondait pas à l'idée de celui qui, par ses pensées, ses attitudes, son exemple moral, pouvait représenter une nation. Le statut de grand homme que l'Académie exigeait tout naturellement de ses membres, ce n'est pas ce qu'un romancier ambitionne. Ce n'est pas là son aspiration. Par la nature de son art, il est secret, ambigu, ironique. Oui, ironique, les poètes surréalistes dans leurs pamphlets l'ont très bien compris. Et surtout, dissimulé derrière ses personnages. Il est difficilement réductible à une conviction, à une attitude. Si pourtant quelques romanciers sont entrés dans la mémoire commune en tant que grands hommes, cela n'a été que le résultat du jeu des coïncidences historiques. Et pour leur livre, toujours une calamité.
Milan Kundera est aussi un mélomane compétent. Son père, Ludwig Kundera, était un célèbre musicologue et pianiste, directeur de l'Académie musicale de Brno, ville natale de Kundera, qui, très jeune, lui enseigna le piano. La musique est partie prenante de son œuvre d'écrivain. Dans ce livre, Une rencontre, il consacre plusieurs passages à la musique et aux musiciens, et notamment à Yanis Xenakis, lequel, rappelons-le, était membre associé étranger de l'Académie des Beaux-Arts.
C'était 2 ou 3 ans après l'invasion russe en Tchécoslovaquie. Je suis tombé amoureux de la musique de Varèse et de Xenakis. Je me demande pourquoi. Par snobisme d'avant-garde ? Dans ma vie solitaire de cette époque, le snobisme aurait été dépourvu de sens. Par intérêt d'expert, si je pouvais à la rigueur comprendre la structure d'une composition de Bach, j'étais, face à la musique de Xenakis, complètement désarmé, non instruit, non initié, un auditeur donc tout à fait naïf. Et pourtant, j'ai éprouvé un plaisir sincère à l'audition de ses œuvres que j'ai écoutées avec avidité. J'avais besoin d'elles. Elles m'ont apporté un bizarre soulagement. Oui, le mot est lâché. J'ai trouvé dans la musique de Xenakis un soulagement. J'ai appris à l'aimer pendant l'époque la plus noire de ma vie et de mon pays natal. Mais pourquoi cherchais-je de soulagement chez Xenakis et non pas dans la musique patriotique de Smetana, où j'aurais pu trouver l'illusion de la pérennité de ma nation qui venait d'être condamnée à mort ? Le désenchantement causé par la catastrophe qui frappa mon pays, catastrophe dont les conséquences seront séculaires, ne se limitait pas aux seuls événements politiques. Ce désenchantement concernait l'homme en tant que tel, l'homme avec sa cruauté, mais aussi avec l'alibi infâme dont il se sert pour dissimuler cette cruauté, l'homme toujours prêt à justifier sa barbarie par ses sentiments. Je comprenais que l'agitation sentimentale, dans la vie privée de même que publique, n'est pas en contradiction avec la brutalité, mais qu'elle se confond avec elle, qu'elle en fait partie.
Merci au comédien Fernand Guillot d'avoir prêté sa voix à Milan Kundera pour la lecture de ces quelques extraits de son dernier ouvrage paru, Une rencontre, aux éditions Gallimard.